Le journal des idées à présent, à 6h40 sur France Culture, c'est avec vous Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, des économistes de plus en plus nombreux mettent en cause le modèle néolibéral qui n'a pas fait la preuve de son efficacité.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme le rappelle Daniel Cohen dans l'Express à propos des États-Unis, en plus d'un demi-siècle, le revenu médian de l'ensemble de la population n'a enregistré qu'une hausse dérisoire de 0,2%. Et depuis les années 1980, le 1% le plus riche a doublé sa part du revenu national, passant de 10 à 20%, alors que les 50% les plus pauvres faisaient le chemin inverse, leur part dégringolant de 20 à 10% du revenu national. L'économiste évoque la fable du ruissellement, vous savez, ceux qui créent de la richesse pour eux-mêmes en feraient bénéficier tous les autres. C'était la pierre angulaire de la révolution conservatrice. Mais déjà, le premier secrétaire au budget de Reagan vendait la mèche en disant que le ruissellement était une astuce pour faire passer les cadeaux fiscaux aux plus riches. Curieux moment, ajoute Daniel Cohen, où l'on remettait à la mode les théories de Max Weber avec son éthique du travail, de l'effort et de l'assaise. L'illusion contenue dans cette promesse paraît enfin en pleine lumière. Et de douter des capacités du système à s'amender lui-même, c'est Roosevelt, dit-il, qui face à la gravité de la crise des années 1930, invente un nouveau modèle. De même, c'est le collapsus de la Seconde Guerre mondiale qui mène à poser les bases d'un État-providence. Pour Gilles Raveau, le libéralisme économique a perdu la bataille intellectuelle, il peut perdre la bataille politique. Il développe ses analyses dans un livre qui vient de paraître au Seuil, « Économie, on n'a pas tout essayé ». Mettre la finance au service de l'économie, abandonner l'austérité, investir pour demain, réduire les inégalités pour sauver la société. Voici quelques-uns de ces titres de chapitres qui abondent de propositions concrètes. Dans Le Monde, Antoine Reverchon souligne à la lecture de ce livre que ce qu'une poignée d'économistes s'évertuait à clamer dans le désert du consensus néolibéral de la fin du siècle dernier, les inégalités s'accentuent, l'instabilité financière et le marché tout-puissant menacent la croissance, l'environnement et la démocratie, l'État et les institutions économiques doivent jouer un rôle de régulateur, de garant et d'investisseur, est en train de devenir le consensus des économistes jusque dans les bastions considérés comme les ordonnateurs de la politique économique menée jusqu'à la crise de 2008, le FMI, l'OCDE ou la BCE. Et à propos de la crise de 2008, il relève qu'une fois le moment de panique passé, les États ont transformé le rachat par l'argent public de la dette privée bancaire en crise de la dette publique européenne en 2010. Ils ont fait supporter aux contribuables, aux salariés et aux chômeurs au nom de l'équilibre budgétaire et de la compétitivité, ce qui aurait dû être une purge financière démantelant les banques. Ils ont ainsi, par l'accroissement des inégalités et le sentiment de collusion des élites mondialisées, jeté les victimes de la crise dans les bras de l'extrême droite. L'économiste Robert Skidelsky le confirme dans Les Échos. La crise financière mondiale et la reprise incertaine qui a suivi nourrissent encore aujourd'hui l'extrémisme. Entre 2007 et 2016, l'électorat des partis européens correspondant a doublé. Il constate que là où ils sont au pouvoir, les partis nationalistes ont su mettre en œuvre des politiques économiques favorables à la protection sociale et il qualifie de mauvaise politique économique le fait de laisser les marchés financiers dicter leurs lois à l'économie réelle. Dans les pages débat de La Croix, Gaspard Koenig et Dominique Méda s'opposent sur la question du modèle social français, le chantre du libéralisme ou du néolibéralisme, comme on voudra, qui parle de mythes construits à la fin de la Seconde Guerre mondiale à propos de la protection sociale, estime qu'il repose sur un immense transfert de richesses des jeunes et des actifs vers les baby-boomers au prix d'une dette qui ne cesse de croître et dont les seniors d'aujourd'hui seraient les seuls à profiter. Et même s'il est vrai qu'au final, notre modèle entretient les inégalités en bloquant les possibilités d'ascension sociale, ce n'est sans doute pas tant par excès que par défaut. Pour Dominique Méda, bouc émissaire facile, ce modèle social a au moins permis d'amortir le choc des crises, car le taux de pauvreté français est l'un des moins élevés d'Europe et elle plaide pour une relance de l'investissement public passé depuis 10 ans de 4,2 à 3,5% du PIB, une harmonisation européenne du salaire minimum et de l'assurance chômage et pour que les dépenses liées à la protection sociale soient ôtées du calcul du déficit public tant elles sont décisives pour l'avenir. Et pour finir, je citerai Karl Polanyi en 1944 déjà. C'est dans la grande transformation. L'idée d'un marché s'ajustant lui-même était purement utopique. Une telle institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l'homme et sans transformer son milieu en désert.